Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
C'est un miracle. Ah ouais, on se demande encore comment c'est possible, quoi. On commençait vraiment à baisser les bras avant cette troisième FIV. Et je pense qu'on aurait fait cette troisième FIV, mais on n'aurait peut-être pas fait une quatrième parce que ça me vivait mal quand même. Et c'est le message que je veux faire passer, c'est que même si tout va mal, ben les miracles sont quand même possibles, quoi. Alors que moi, la première, je ne croyais pas aux miracles. À chaque fois qu'on me disait ça, je disais n'importe quoi. Mais si, 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 c'est bien vrai.
Bonjour et bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui parle de maternité et de parentalité quand ça ne se passe pas comme on se l'était imaginé. Moi c'est Anne Fleur, la créatrice de ce podcast et je vous parle depuis Boston aux États-Unis. Je sais que la période de Noël et des fêtes de fin d'année peuvent être très compliquées quand on attend, que l'on attend un résultat, que l'on attend un protocole ou que sais-je. Alors aujourd'hui j'espère que vous apprécierez cet épisode placé complètement sous le signe de l'espoir. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Eugénie, 29 ans, à l'accent chantant du sud de la France. Eugénie est infirmière au SMUR et sapeur-pompier. Elle a rencontré son cher et tendre lors d'une fête de village, un peu comme le début d'un film. Un jour, alors que Sam rêve de devenir papa, elle se sent prête et arrête de prendre la pilule. Ses règles reviennent 6 mois plus tard et une première grossesse se met en route 18 mois après. Malheureusement, cette grossesse s'arrêtera vers 3 mois. Eugénie retombe enceinte rapidement lors de son retour de couche, mais à nouveau, elle vit une fausse couche. Grâce à la bienveillance et la guidance d'une sage-femme qu'elle remercie encore aujourd'hui, Sam et Eugénie sont orientés vers le service de fertilité de l'hôpital de Montpellier. Après une multitude d'examens, le coup près tombe, Sam est porteur d'une anomalie génétique, une translocation équilibrée, et ils vont devoir passer par la FIV ICSI et le DPI, le diagnostic préimplantatoire afin d'identifier et d'implanter les embryons fécondés non porteurs de la translocation sous forme déséquilibrée afin de maximiser la viabilité de bébé. Mais il n'y a que 5 centres de PMA en France qui font du DPI. Donc imaginez les délais. Une FIV, deux FIV, puis la troisième FIV est prévue pendant le confinement d'avril, annulée. En pleine pandémie, Eugénie est débordée de travail et la surprise, elle est enceinte. Angoisse et culpabilité, Eugénie et Sam n'osent se réjouir de la présence de ce petit être qui pourrait être porteur d'une anomalie qui affecterait sa survie. Et finalement, à 4 mois et demi de grossesse, Eugénie l'a eu son petit miracle. Et au moment où je vous parle aujourd'hui, son terme est prévu pour demain, le 24 décembre. On souhaite tout le bonheur du monde à ce petit être et à ses parents. En attendant, allons découvrir l'histoire d'Eugénie. Belle écoute. Bonjour Eugénie, bienvenue sur le podcast, comment ça va ?
Bonjour, merci. Mais écoute, ça va très bien, j'espère que toi aussi.
Eh ben, ça va super bien, je te remercie. D'où est-ce que tu nous parles ce matin ?
Je te parle de chez moi, dans le sud de la France, en Aveyron exactement.
Oh, ça fait rêver tout ça. Mmh. Moi, je suis à Boston et il commence à faire très froid, donc je peux dire que ça commence à te faire...
Oui.
Bon, écoute, je te remercie d'avoir accepté mon invitation à venir partager ton histoire sur le podcast. Je sais que tu l'as déjà fait sur le FIV. Je te remercie de renouveler l'exercice, c'est vraiment super sympa. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas forcément, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, en fait, me dire voilà, donc quel âge tu as, donc on a compris d'où tu nous parles, ce que tu fais dans la vie et avec qui est-ce que tu t'es lancée dans l'aventure et ses bébés.
Alors, du coup, moi j'ai 29 ans, dans la vie je suis infirmière dans un service d'urgence SMUR, je suis aussi infirmière sapeur-pompier, et je me suis lancée dans les essais bébés avec mon compagnon, qui lui est un petit peu plus vieux, mais pas trop non plus, il a 35 ans, et lui il est agriculteur.
D'accord, ok. Ouais. Super. Comment est-ce que vous êtes rencontrés avec ton chéri ?
Tout bêtement. Une fête de village chez nous, un soir où il pleuvait un peu catastrophique. C'était le déluge et voilà, on est tombés amoureux directement.
Oh, comme dans les films.
Ouais, c'est un peu ça.
Tac. L'envie de bébé vous vient rapidement ou est-ce que ça vient d'abord chez l'un puis chez l'autre ? Comment ça se passe ?
Alors, c'est venu rapidement, oui et non. Ça devait faire 3 ans qu'on était ensemble, en fait, parce que tous les couples autour de nous commençaient à avoir des enfants. Enfin, tous les amis de Sam, vu qu'ils sont un peu plus vieux. Et du coup, ben, tout bêtement, un soir, je lui ai dit, allez, chiche, j'arrête la pilule. Et il m'a dit, d'accord. Sauf que le lendemain, il s'est réveillé, il m'a dit, mais en fait, t'as pas pris ta pilule. Ben non. Et ça a commencé comme ça.
Tu t'es toujours vue maman, toi?
Non. Non, non, je voulais pas d'enfant avec mes autres relations. Ouais, c'est bête, hein. Je voulais pas tout d'enfant et je pense que c'est parce que c'est lui, en fait.
Ah, oh, c'est l'amour, c'est
et
beau.
Ouais. Et oui.
Comment est-ce que ça se passe, du coup, vous vous lancez en mode on arrête la pilule et puis on verra bien, advienne que pourra, ou comment ça se passe chez vous, alors?
Oui, c'est un peu ça. Je dis, bon, allez, on arrête, on verra ce qui se passe, on verra ce que ça donne. Sauf qu'en fait, pendant très longtemps, j'ai pas eu de règles. Mm-hmm. Donc là, je me suis dit, c'est pas normal. Ouais. Du coup, j'ai commencé à consulter. Mes rêves sont arrivés donc 6 mois après l'arrêt de la pilule. Et c'est Et en fait, c'est là où en fait le désir est vraiment venu. Où tous les cycles, on se disait, allez, c'est là que ça va marcher, c'est là que ça va marcher, mais ça venait.
D'accord. Et quand tu dis que t'as consulté, t'es allé voir quoi, ton médecin généraliste ou...
Du coup, j'ai été voir ma gynécologue habituelle. Voilà, d'accord. Qui m'a rassurée, vu que je prenais en fait à l'époque une pilule micro-dosée en fait, donc j'avais pas de règles déjà sous pilule. Donc elle m'a dit, voilà, c'est le temps que la machine se remette en marche et que ça allait arriver.
Donc elle était pas particulièrement inquiète et du coup, toi non plus,
non.
J'imagine?
Non plus.
D'accord, ok. Donc du coup, tu dis, vous commencez un peu à vous mettre dans l'expectative, c'est normal, une fois que tu as un repère temps avec le cycle, une fois donc que tes règles reviennent, comment ça se passe?
Une fois que les règles reviennent, du coup, elle m'a fait faire quelques examens pour me rassurer, des examens de base, une échographie, voilà. Et j'avais pas beaucoup de follicules. Follicules, en fait, c'est là où il y a les ovules pour celles qui connaissent pas. Mm-hmm. Donc elle m'a dit, bon, c'est pas catastrophique, c'est dans la moyenne basse, mais c'est possible. Donc en fait, c'est de là, je pense, qu'est parti un petit peu le fait qu'on voulait vraiment avoir un enfant, que ça marche à chaque cycle et que ça ne marchait pas, en fait. C'est là, je pense, que tout a commencé. Et je suis tombée enceinte 1 an et demi après l'arrêt de la pilule.
D'accord. Voilà,
tout naturellement, donc on était hyper contents. Mais ça s'est pas bien fini, ça s'est fini en fausse couche.
Mmh. À quel terme?
J'allais arriver aux 3 mois. Quelques jours après, j'allais être aux 3 mois. Et après, j'ai eu mon retour de couche et je suis retombée de suite enceinte.
D'accord. Vous vous étiez dit, parce qu'on dit souvent, c'est vrai que c'est au moment où on est très très fertile, juste après l'accouchement.
C'est ça. Ouais. C'est ça. Alors, on s'est dit, c'est la période où c'est à peu près fertile. Donc,
d'accord.
Donc, on recommence, on y va. Sauf qu'en fait, j'ai refait une deuxième fausse couche.
Ouais.
Et c'est là où, si tu veux, j'ai vu une sage-femme qui a été adorable, qui m'a donné un rendez-vous de consultation avec un spécialiste du CHU de Montpellier, niveau infertilité. Oh. Voilà. Et c'est grâce à elle, si tu veux, qu'on est rentré un petit peu dans tout ça, qu'on a trouvé ce qui clochait.
D'accord. Alors, raconte un peu comment est-ce que ça se passe.
Alors, du coup, j'ai eu ce rendez-vous avec ce spécialiste, donc il me demande des antécédents familiaux.
Quel type de spécialiste, excuse-moi de t'interrompre?
C'est un professeur de PMA, tout simplement.
D'accord, donc gynéco de profession ou...
Oui, voilà, c'est d'accord. Ça, exactement. C'est un gynécologue de base qui s'occupait, qui était chef de la PMA à l'époque à Montpellier, qui ne l'est plus, je crois. Je crois qu'il est à la retraite.
D'accord.
Qu'on repart sur notre... tous les antécédents familiaux, personnels, tout ça. Donc moi, dans ma famille, ma mère, ma grand-mère ont eu beaucoup de fausses couches. Il faut savoir que j'ai un neveu gravement handicapé. Mmh. Donc on est parti sur cette piste-là. Il nous a fait faire... cariotype sanguin à moi et à mon compagnon aussi, mais il avait hésité en pensant qu'on allait trouver quelque chose chez moi, en fait.
D'accord.
On s'était dit, il y a quelque chose chez moi, on va trouver. Et en fait, mon cariotype à moi est revenu normal. D'accord. Grande surprise. Et quelques semaines après, on reçoit le cariotype de mon compagnon. Et là, on voit qu'il y a une translocation. Alors, c'est un mot un peu barbare qu'on ne connaissait pas à l'époque. Donc, je prends mon téléphone, j'appelle ce professeur qui m'explique un petit peu tout, sauf que là, il me dit, voilà, là, c'est une FIV DPI, je vous donne un rendez-vous en consultation génétique, un rendez-vous avec la gynécologue qui s'occupe du DPI à Montpellier, et puis vous allez rentrer directement dans tout ce parcours. Donc, pour nous, ça a été la douche froide.
Bah ouais, j'imagine. j'imagine. Oui. Si on revient un tout petit peu en arrière,
oui.
Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce que c'est une translocation chromosomique ?
En fait, une translocation, c'est-à-dire qu'on a tous nos paires de chromosomes, ils sont donc par deux, avec tous nos gènes dessus. Et en fait, chez mon compagnon, il a un chromosome 14 qui va aller se coller à un chromosome 13. C'est-à-dire qu'il a une paire de chromosomes 13, collé du coup à un chromosome 14, et donc il a son chromosome 14 qui se retrouve tout seul. Je sais pas si ouais. je suis claire.
Si, si.
Donc, le risque, c'est que ce soit déséquilibré, c'est-à-dire qu'il manque certains gènes, ou alors qu'il y ait une trisomie ou une monosomie des chromosomes 14 ou 13, et que le bébé ne soit donc pas viable. Ce qui peut provoquer des fausses couches, ou alors il faut faire un IMG un petit peu plus tard dans la grossesse. Voilà. Mais on pouvait aussi avoir un bébé avec un karyotype normal comme le mien, ou avec un karyotype comme le sien, avec une translocation équilibrée.
D'accord. Ok. Alors merci d'avoir expliqué tout ça. Et donc du coup, ton gynéco qui te propose un DPI, DPI c'est un diagnostic pré-implantatoire.
Oui.
C'est-à-dire quelque chose qui a été très discuté pendant les discussions autour des lois de bioéthique. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi un petit peu comment ça marche donc au sein d'une FIV?
Alors, du coup, c'est une FIV ICSI. Ça s'appelle une FIV ICSI, c'est-à-dire que c'est là où il micro-injecte un spermatozoïde dans l'ovule. Et quand l'embryon arrive à 3 jours, à peu près, généralement c'est à 3 jours, ils vont prélever une ou deux cellules de l'embryon pour les analyser. Sauf qu'en fait, ils vont pas faire une analyse génétique entière. En France, c'est interdit. C'est-à-dire qu'ils vont juste voir les chromosomes 13 et 14. Voilà, ils vont regarder qu'il n'y ait pas de trisomie ou de monosomie 13 ou 14 à ce stade-là. Donc, tous ceux qui sont sains, ils vont les garder. Donc, ils vont les réimplanter après comme une FIV classique, un transfert d'embryon classique, hein. Mais il faut savoir qu'ils peuvent pas les congeler une fois que l'analyse a été faite. Enfin, ils peuvent pas. C'est très difficile parce qu'en fait, un trou a été fait dans l'enveloppe de l'embryon pour aller chercher ces cellules.
Voilà.
Et donc, le risque, voilà, nous, c'est ce qui nous arrivait quand ils recongelaient, quand ils congelaient derrière, en fait, cette analyse-là. L'embryon souvent se cristallisait de l'intérieur et donc éclatait entre guillemets.
Merci pour ces explications. Du coup, tu me disais, voilà, ça a été la douche froide. On en revient du coup à cette annonce et on peut tout à fait le concevoir. Comment est-ce que tu as vécu cette annonce toi-même, je dirais, de manière individuelle, et comment est-ce que vous avez vécu tout ça au sein de ton couple?
Ben, on s'est complètement effondré.
Ouais.
Sauf que vu que c'était lui qui est porteur de cette translocation, il culpabilisait énormément. Donc moi, je m'étais dit, il faut absolument que je garde la tête hors de l'eau et que j'organise un peu tout ça, que ce soit moi qui mène un petit peu la barque entre guillemets, quoi. Il faut savoir que pour du DPI en France, il y a que 5 centres qui le font, avec une moyenne d'attente environ de un an et demi.
Oh, wow.
Voilà, donc c'est très long parce que voilà, il y a pas beaucoup de gynécologues qui s'en occupent, et malheureusement, il y a beaucoup de couples qui sont concernés par ça parce que c'est pas que pour les translocations, c'est aussi pour des maladies comme la mucoviscidose par exemple.
D'accord, ouais d'accord.
Voilà.
Waouh, d'accord. Donc du coup, vous prenez un petit peu de temps peut-être pour digérer tout ça. Est-ce que vous vous faites accompagner tous les deux avant de vous lancer dans ce nouveau parcours qu'on vous propose, ou comment ça se passe?
Alors du coup, c'est qu'il a été super avec le CHU de Montpellier, ils ont été super. On a eu les rendez-vous assez vite, que ce soit avec le généticien ou avec la gynécologue du DPI. Donc, on a pu avoir plein d'explications assez rapidement, en fait. On n'est pas resté dans le flou très longtemps. Et ça a été vraiment top.
Ouais.
Parce que de rester dans le flou, c'est pas terrible. On va chercher sur Internet, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? On ne trouve pas forcément ce qui est vrai. Donc, c'était pas terrible. Et en fait, là, du coup, tout s'est éclairci. Et le fait que la gynécologue nous dise que c'était pas si compliqué que ça, ça nous a rassurés quand même.
Ouais, bah j'imagine. Toi, venant du milieu médical, tu as pu peut-être aussi expliquer et rassurer ton compagnon sur certains sujets par rapport au parcours, ou finalement tu te rends compte que une fois que t'es du côté patient, bah on est vraiment tous dans le même bateau. Comment t'as vécu ça?
Non, on est vraiment tous dans le même bateau, hein. Vraiment tous. Et le problème, c'est que je savais certaines choses que je voulais pas forcément lui dire. Donc, je lui ai pas tout dit pour pas lui faire peur, parce que je sais très bien que lui, s'il commence à avoir peur de quelque chose, il va dire non, on n'y va pas. Et pour moi, c'était notre seule chance d'avoir un enfant, ouais. quoi. Donc, je lui ai pas tout dit. Et...
Quel type de choses t'as gardé pour toi, alors, du coup?
Tout ce qui est les traitements, c'est-à-dire les piqûres tous les soirs, ouais. les échographies, les prises de sang tous les deux jours, presque tous les jours, les allers-retours sur Montpellier, les passages au bloc. Lui, c'est recueil. Parce qu'il faut le dire, pour eux, c'est pas évident non plus. Mmh. Donc, en fait, voilà, tous les grosses parties qui peuvent faire peur quand on n'y est pas encore.
Bien sûr. Bon, et ben alors, donc, du coup, vous vous lancez. C'est parti.
Ouais.
Comment ça se passe alors?
Honnêtement, même en tant qu'infirmière, là, moi, j'ai posé le cerveau et je me suis laissée guider. Je réfléchissais ouais. plus, en fait. Non.
Certainement la meilleure chose à faire. Ouais.
Ouais, je pense qu'il vaut mieux pas trop réfléchir. Donc on se laisse guider, c'est vraiment la découverte, la première FIV. Mm-hmm. C'est vraiment la découverte quoi. Les traitements, voilà, toute la préparation qu'il y a à faire, c'est-à-dire commander des traitements, se préparer psychologiquement aussi. Mm-hmm. Et en fait la première FIV s'est plutôt bien passée. Un autre grande surprise. Je pensais que je serais beaucoup plus fatiguée, que j'aurais beaucoup plus d'effets secondaires. Non, ça s'est plutôt bien passé. Mmh. Voilà.
Donc tu dis ça s'est très bien. Enfin, ça s'est plutôt bien passé. En fait, je voulais juste que tu détailles un petit peu, parce que donc cette première FIV n'a pas marché. Et du coup, je suis intéressée de savoir qu'est-ce que ça veut dire du coup que ça s'est bien passé en fait. Je suis claire ou je suis pas du tout claire?
Excuse-moi. Oui, je comprends.
Merci.
Alors, quand je dis ça s'est bien passé, c'est parce que je pensais vraiment avoir beaucoup plus d'effets secondaires.
D'accord.
Beaucoup plus de fatigue. Je pensais que je supporterais pas les piqûres. Je pensais que j'en aurais marre d'être piquée, alors que d'habitude, c'est moi qui pique les autres. Je pensais que Sam ne s'investirait pas autant que ce qu'il a fait. C'est-à-dire que c'est lui qui faisait mes injections, il suivait mes échographies, il me demandait à chaque fois... comment ça a évolué. Et en fait, je pense que première FIV, ils doivent pas trop doser les traitements, en fait. Je pense pour tester un peu, voir comment ton corps
réagit.
Ouais. Mm-hmm. Je pense que c'était ça, surtout, en fait, pourquoi est-ce que cette première FIV s'est plutôt relativement bien passée, quoi. Hein.
D'accord. Bon, écoute, super. Alors, du coup, tu disais que ton compagnon... Est-ce qu'on peut le nommer, ton compagnon, ou on garde...
Oui.
Ouais.
Oui,
je trouve c'est plus facile de... Sam, d'accord. C'est plus facile, je trouve, de mettre un prénom sur la personne.
Oui.
Et donc, tu dis, Sam, tu pensais pas qu'il s'impliquerait autant. C'est peut-être une question un peu d'une grande platitude, mais pourquoi, en fait? Tu vois, je me demande, on a souvent, en fait, ce cliché, je dis pas forcément par rapport à toi, tu vois, c'est que les hommes sont un peu séparés de tous ces problèmes de fertilité, ces essais bébés. Et du coup, je suis un peu curieuse de savoir, de creuser un petit peu cette question.
Pourquoi? Parce que pour moi, il culpabilisait énormément. Il s'en rendait malade, quoi.
Tu voulais l'épargner peut-être un petit peu?
Et je pense que je voulais l'épargner aussi. Puis lui, il est pas trop piqûre, pas trop tout ça. Ouais. Et finalement, justement, c'est ce que tu dis, les hommes sont plutôt écartés sans que les gens le veuillent vraiment, sans que les équipes le veuillent vraiment. Mmh. Ils sont plutôt écartés, mis à part. Et ça, justement, il a mal vécu. Il a mal vécu que les médecins ne me parlent qu'à moi, ne me regardent que moi. Ouais, ça, il a mal vécu. Et en fait, pour lui, c'était hyper important de me faire les injections, de venir aux échographies, de venir voir les médecins. Voilà. Et c'est vrai que ça, il me l'a dit plusieurs fois, il a plutôt mal vécu d'être mis à part, fait un peu de côté, parce que la fertilité dans la société actuelle concerne... que la femme, alors que c'est pas vrai.
Bah non, mais bien sûr, bien sûr. Donc tu veux dire que les médecins en fait considèrent que c'est c'est un projet de couple vite fait, mais on parle que à la femme en fait qui va gérer tout ça.
Oui, je pense que c'est pas fait exprès. Enfin, ouais. Je pense vraiment pas que ce soit fait exprès, c'est inconscient, je pense.
Ouais.
Mais parce que nous, la gynécologue du DPI a essayé quand même de parler au couple et le généticien aussi, mais on voyait quand même que quand il parlait, il me regardait beaucoup plus moi que lui.
C'est intéressant, d'accord, ok.
Ouais.
Sam, super impliqué, j'imagine qu'effectivement ça a dû te faire du bien, parce que c'est un peu isolant aussi tous ces parcours quand on se retrouve un peu seul, c'est pas toujours évident. Donc du coup, ce premier essai de FIV DPI ne se solde pas par le succès escompté. Comment est-ce que vous réagissez du coup à ce résultat, et puis comment est-ce que vous vous tournez vers la suite?
Donc la FIV a pas marché. Nous, on pensait vraiment que ça allait marcher. On s'est dit, allez, un coup de baguette magique, c'est bon, ça va marcher, c'est obligé. Moi, j'avais pas forcément de soucis, vraiment. Donc, tout le monde était rassurant, les médecins, tout le monde, ils nous disaient, non, mais ça va marcher, vous inquiétez pas. Et en fait, on me transfère donc deux embryons sains, en me disant, on en met deux, comme ça, ils vont se stimuler l'un l'autre, il y aura forcément une accroche. Et en fait, à la prise de sang, pas du tout d'accroche.
Ah.
Ouais, donc on tombe un petit peu de haut, on se dit, aïe, ça va pas être si facile que ça. Ils sont quand même rassurants en me disant que voilà, c'était la première FIV, c'était un essai, qu'ils allaient adapter les traitements pour la deuxième. Avec le DPI et toutes les personnes qui sont en parcours de DPI, il faut savoir que c'est un parcours beaucoup plus lent. C'est-à-dire j'ai commencé ma première FIV en décembre 2019.
D'accord.
Et j'ai fait la deuxième en septembre 2020.
En septembre 2020, non, c'est pas possible.
Non, attends. Non, j'ai commencé la première FIV en décembre 2018 et la deuxième en septembre 2019. Voilà, pour donner un ordre d'idée au niveau du DPI, un peu l'attente que ça peut être.
On en avait parlé effectivement avec Charlotte aussi, qui dans la saison 1, qui a fait des FIV DPI pour une translocation aussi. Et effectivement, c'était pareil, c'était une attente assez dingue. Et c'est vrai que en PMA, la patience est mise à rude épreuve, mais en DPI, d'autant plus, quoi. Franchement, chapeau.
Oui, encore plus.
Ouais.
Encore plus. Et quand je voyais les autres qui enchaînaient les FIV et moi qui étais obligée d'attendre.
C'était frustrant.
Ah, c'était terrible, terrible, parce que nous, du coup, on était obligés de se protéger. Il ne fallait absolument pas qu'on ait de grossesse naturelle pour éviter de faire une autre fausse couche et éviter possiblement abîmer l'utérus, entre guillemets, quoi.
Ouais. Sans compter de la charge psychologique qui est aussi super, super difficile.
Voilà, c'est ça. Plus tout l'entourage qui a des bébés, qui c'était un peu compliqué.
Comment t'as géré du coup justement toute cette attente, puisque au final donc vous avez eu quelques années d'attente entre le tout début du chéri j'arrête la pilule,
c'est ça,
à l'annonce à laquelle on va venir dans quelques instants. Toi aussi d'ailleurs qui est dans le milieu médical, j'y reviens. Est-ce que t'en as parlé un petit peu autour de toi? Est-ce que vous en avez parlé au travail comme dans vos cercles privés? Pour que les gens peut-être vous préservent un petit peu sur les annonces de grossesse ou juste pour qu'ils vous soutiennent parce que c'est vos amis ou votre famille? Comment ça s'est passé?
On en a parlé très peu, très peu. Moi, j'en ai parlé à une ou deux collègues de travail. Voilà, parce que j'ai une collègue qui avait fait des FIV pour totalement autre chose. Donc, elle me soutenait pendant que j'étais en protocole de FIV. On en a eu parlé à quelques amis de ça, mais vraiment très peu aussi. Et puis, toutes nos familles proches, nos parents, nos frères et sœurs étaient au courant. Donc, c'est vrai que, voilà, on n'était pas seuls, en fait. Ouais. On était quand même entourés. C'était bien. Et pendant ces périodes d'attente, je pense que moi, je me mettais à fond dans le travail pour éviter d'y penser aussi, quoi.
D'accord. On se réfugie un peu. Ouais, on compense tous à notre manière par quelque chose, quoi.
C'est ça.
Moi aussi, j'étais partie dans le travail.
Ouais, c'est un peu ça.
D'accord. Alors, donc, du coup, excuse-moi pour cette interruption, du coup, sur ton parcours. Donc, vous vous tournez, du coup, vers la deuxième FIV. Mais donc, comme tu le dis, hein, ça a pris 9 mois, c'est ça, entre les deux FIV?
Oui, ça a été assez long. Donc, on commence pareil, la deuxième FIV. Donc, les médicaments sont plus dosés. Là, je le vis un peu plus mal. Là, je suis plus fatiguée, j'ai plus de migraines, j'ai plus de mal à me bouger. Rien que m'asseoir sur un tabouret, j'avais les ovaires tellement gonflés que rien que m'asseoir sur le tabouret pour manger, c'était difficile, je le sentais. Au travail, je pouvais plus forcer comme avant. Là, c'était vraiment une FIV complètement différente de la première. Donc, j'en avais marre. Il me tardait d'arriver à la ponction. Quand on arrive à la ponction, soulagement, ça allait mieux. Tout s'est très bien passé. Donc, j'avais plus d'ovocytes que pour la première.
Ah, super.
Ouais, donc on était hyper contents. Ils étaient hyper rassurants. Voilà, on était sûrs. On s'est dit, bon, allez, première FIV, ça n'a pas marché. Ouais. Voilà, celle-là, c'est la bonne, c'est sûr.
Ouais.
Sauf que pareil, donc on a eu quelques embryons sains. Ils m'en transfèrent deux pour la même raison. Sauf que, ben, pareil, aucune accroche. Bon, donc là, on le prend un peu mieux que pour la première FIV. On se dit, bon, il doit y avoir quelque chose quand même. Sauf qu'on se dit quand même, en France, on a droit qu'à 4 FIV remboursées, je crois, par la Sécu.
Ouais, tout à fait.
Ouais, c'est ça. Donc, on se dit, bon, il y en a deux déjà qui sont passés à la trappe. Donc, la gynéco me dit, on va faire plein d'examens pour voir pourquoi est-ce qu'il y a vraiment aucune accroche.
D'accord.
Donc, là, commence tout l'examen. Donc, c'est un bilan de non-implantation. D'accord. Ils appellent ça comme ça. Donc, j'ai fait des prises de sang hormonales qui allaient très bien. Mmh. J'ai fait un IRM.
Ah ouais. De quoi alors?
Oui, pour voir s'il n'y avait pas de lésion au niveau de l'utérus, pour voir s'il n'y avait pas de l'endométriose.
Ah oui, d'accord, effectivement.
Ouais, mm-hmm. J'ai pas compris parce que j'avais pas de signe, donc. Donc IRM est revenu normal. Mm-hmm. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une hystéroscopie avec biopsie de l'endomètre qui est revenu normal aussi. Enfin, tout était normal.
D'accord.
Donc on avait programmé la troisième FIV pour le mois d'avril 2020, sauf que le confinement est arrivé entre temps.
D'accord. Donc, grosse frustration aussi, j'imagine, puisque il y a tous ces mois d'attente à chaque fois entre tout ça.
C'est ça. Puis, je m'étais préparée et puis j'ai dit, allez, c'est bon. Le mois d'avril, c'est le bon. On y va. On se met à fond.
Jamais 203. Cette fois-ci, ça va le faire.
Ouais. C'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, bon, les examens sont bons. On y va. Ouais,
bien sûr.
Donc, le confinement est arrivé. Moi, au travail, vu que je suis au SMUR et aux pompiers, c'était un peu la folie. On a enchaîné un petit peu les SMUR sur les Covid. C'était assez difficile. Mm-hmm. Donc, j'avais vraiment la tête dans le travail et pas dans les essais, quoi.
Ouais.
Et là, grosse surprise, je suis enceinte. Et là, on se dit, oups.
Ouais.
Justement, quoi. Ouais. Bah qu'est-ce qu'on a fait?
On m'avait dit de me protéger.
Ouais, c'est ça.
Vous vous êtes pas protégée, en fait?
Et non. Je pense que là, à ce moment-là, j'avais vraiment la tête ailleurs.
Ouais.
Et puis, je m'étais dit aussi, confinement. On verra bien aussi, quoi.
D'accord.
Et là, pas d'attrac. Bon. Ben, du coup, j'attendais la fausse couche, hein.
C'est vrai.
Pour dire ce qu'il y
a. Oh, c'est trop, très
bien. Ouais. J'attendais tous les jours, je regardais si je saignais pas, si j'avais pas mal au ventre. Finalement non, donc je dis à la PMA, au DPI, je leur dis voilà que je suis enceinte. Donc un peu catastrophe à bord, eux aussi c'était un petit peu la panique.
D'accord.
Bon, qu'est-ce qu'on fait, on va voir. Sauf que avec le DPI il y a tellement de monde que je me doutais que s'il y avait une grossesse qui arrivait, on risquait de soit retourner tout au fond de la liste, soit carrément d'être exclu du DPI, entre guillemets, de devoir tout recommencer.
Tu vas quand même pas être puni.
Début, quoi. Non, mais ça fait peur, tu sais, quand t'es un DPI.
Non, bah bien sûr.
Tu te dis, toute cette attente qu'il y a. Ouais. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, ils ont classé le dossier.
Mais ils vous ont proposé de vous accompagner quand même, puisque t'étais toujours enceinte. Qu'est-ce qu'on vous dit, en fait?
Non, là, on nous dit que, vu que nous étions suivis que pour le DPI, que voilà, qu'il fallait que ce soit moi qui organise un petit peu avec ma gynéco habituelle le suivi.
Donc, vous voulez faites un peu lâcher dans la nature, quoi.
Un petit peu. Ouais, ça a été compliqué, tu vois, à vivre.
Bah ouais.
Mais bon, c'est parce que, voilà, il y a beaucoup de monde, ils ont beaucoup de travail. Voilà. C'est compréhensible aussi, quoi. Donc, je repars avec ma gynéco, qui a été super, qui me fait la première échographie. Première échographie qui a été très rassurante. Et donc là, c'est elle qui organise tout, en fait, avec le généticien. Parce qu'il faut savoir que, du coup, vu que c'est une grossesse naturelle, il fallait faire une biopsie de trophoblaste.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit?
Alors, le trophoblaste, en fait, c'est le placenta. C'est ce qui va devenir le placenta. Donc, le but, c'est vers 12 semaines d'aménorrhée, faire une biopsie au niveau de ce placenta, de prélever des cellules pour avoir le caryotype du bébé.
D'accord. Donc, en gros, on va aller vérifier s'il est viable et s'il a pas... En gros, on va faire l'équivalent du DPI, mais donc post-implantation.
C'est ça.
D'accord. Ok.
C'est exactement ça. Donc là, on me dit que le bébé est porteur de la même translocation que Sam, c'est-à-dire une translocation équilibrée. Donc le bébé est viable.
Waouh, le soulagement.
Mais le problème,
folie.
Ouais. Là, on était super contents. Le problème, c'est qu'il y avait un souci au niveau du chromosome 10. Donc ils savaient pas si c'était le chromosome qui s'était abîmé. Si tu veux, au laboratoire, parce qu'ils ont été en culture pendant 3 semaines au laboratoire, ou si c'était vraiment une vraie anomalie. Donc là, il fallait passer une amniocentèse.
D'accord.
Donc l'amniocentèse, ça se fait beaucoup plus tard, ça se fait à partir de 16 semaines d'aménorrhée, je crois.
D'accord.
Donc on fait cette amniocentèse, donc là, ils prélèvent vraiment l'amniocentèse au niveau du liquide amniotique, et apparemment, c'est quand même plus précis que les cellules du trophoblaste, quoi. Et là, ils finissent enfin, après plus d'un mois, à nous dire que ça y est, tout va bien, quoi.
Vache, ça a été une énorme attente, parce que du coup, 16 plus encore 4, t'arrives à 20 semaines, t'es à la moitié de ta grossesse, à te dire, tu sais pas encore si tu peux te réjouir ou pas, quoi.
C'est ça. C'est ce qui a été difficile, en fait, c'est d'avoir la première moitié de grossesse où, ben voilà, on se projetait pas, on touchait pas le ventre, où on sentait le bébé bouger, mais non, enfin, on était un petit peu dans le rejet, entre guillemets, quoi. En ne sachant pas comment ça allait
évoluer. Protéger, bien sûr.
Et c'est ce qui a été difficile parce que le jour où on annonçait que j'étais enceinte, ben les gens ne savaient pas. Donc, eux, ils pensaient qu'on s'était déjà projeté. Ils nous ont posé plein de questions sur l'allaitement, l'accouchement, tout ça. Et en fait, nous, on n'y avait pas pensé, quoi. Ça allait trop vite pour nous.
Ils ont dû halluciner, les gens de votre entourage, à dire « Salut, au fait, je suis enceinte de 4 mois et demi.
» Ouais, c'était un peu ça. Mais tu ne nous l'avais pas dit avant.
Personne n'était dans la confiance.
Ben non. Non. Il y avait que nos parents, nos frères et sœurs.
Ouais.
Et peut-être un ou deux amis, mais pas plus.
D'accord.
Donc là, voilà. On leur disait juste que ça avait été compliqué, que maintenant on a été rassurés. Mais voilà, on rentrait pas dans les détails.
D'accord. OK. Et alors, là, aujourd'hui, au moment où on se parle, tu es toujours enceinte.
Oui.
C'est génial.
Toujours enceinte.
Et c'est prévu
pour quand ? C'est une petite fille.
Ouais.
Pour le 24 décembre.
Ah, oh, la naissance de mon fils.
Du coup, pour Noël.
Ouais, génial.
Ah ouais, ouais. Pour Noël, tu vois.
Le plus beau des cadeaux, un parcours comme ça.
Ah ouais. Ah ouais, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est un miracle. Ah ouais, on se demande encore comment c'est possible, quoi. Et c'est justement ça que je veux faire passer, parce que on commençait vraiment à baisser les bras avant cette troisième fille. Et je pense qu'on aurait fait cette troisième FIV, mais on n'aurait peut-être pas fait une quatrième parce que Sam le vivait mal quand même.
Ouais.
Et c'est le message que je veux faire passer, c'est que même si tout va mal, ben les miracles sont quand même possibles, quoi. Alors que moi, la première, je ne croyais pas aux miracles. À chaque fois qu'on me disait ça, je disais n'importe quoi. Mais si, c'est bien vrai.
Il y a un truc que tu m'as dit quand tu racontais un petit peu ton histoire avant l'enregistrement, j'ai trouvé que c'était une très jolie phrase, c'est que l'échec fait partie de la victoire.
Oui, ah oui, complètement. Et l'échec fait partie de la victoire, et c'est aussi ça qui te fait avancer, qui te rend plus fort et qui rend la victoire plus belle, quoi.
Plus
ça, sans les échecs, on le vivrait pas pareil. Ça, c'est sûr. Là, on le vit pleinement, tous les jours, on en profite à fond. Non, ça, c'est sûr. C'est vraiment l'échec qui rend la victoire plus belle.
C'est beau, ça. Et alors, au final, donc, du jour où tu t'es sentie prête à devenir maman, quoi, à te lancer dans les essais bébés avec Sam, au jour où tu tombes enceinte, il s'est passé 4 ans. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, en tant que couple, comment est-ce que vous avez vécu cette, finalement, longue, on sait que c'est un temps médian en PMA, hein, malheureusement, mais c'est quand même long, c'est quand même difficile. On en parlait à l'instant de gérer cette attente. Comment est-ce que, au sein de votre couple, vous avez pu traverser cette longue attente, cette longue épreuve, et est-ce que vous avez mis des choses en place peut-être pour vous aider, pour vous chouchouter en tant qu'individu ou en tant que couple?
Alors, nous, il faut savoir qu'on était très fusionnels déjà avant de commencer la PMA. On était vraiment très soudés et encore plus avec la PMA. La PMA nous a vraiment renforcés. Et quand je suis tombée enceinte, enfin, quand on a su que tout allait bien, du moins, c'est là où on s'est dit, tout peut nous arriver, on arrivera à tout surmonter, quoi.
Ouais.
C'est vraiment là. Après, malheureusement, on a des travails assez prenants, lui et moi. Donc, c'était souvent le soir, on se prenait un temps le soir dans le lit à parler un peu de tout, de rien, à parler aussi de nos émotions. Et c'est vrai que ça fait du bien, quoi.
Ouais.
Garder un moment où on peut se confier, parler de tout, de rien aussi, quoi.
Ouais. D'accord. Communiquer, discuter.
Voilà.
Ouais.
C'est exactement ça. La communication, il n'y a rien de mieux. C'est ça qui fait tout.
C'est vachement fort, en fait, que tu me dis, en fait, que vous vous aimez même encore plus que au début, et que ça a même renforcé votre fusion un peu au sein de votre couple, ce qui est chouette à entendre, parce que les couples sont quand même mis à rude épreuve pendant ces parcours, donc c'est aussi un message plein d'espoir. Je voulais te poser une question sur le DPI, le diagnostic préimplantatoire. Donc c'est quelque chose qui est encore très discuté pendant les discussions du texte de loi, des lois de bioéthique. On avait d'ailleurs fait un hors-série sur le sujet en juillet avec le collectif BAMP. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces groupes de personnes qui remettent en fait finalement en question ce droit au diagnostic préimplantatoire? Qu'est-ce que tu aurais envie qu'ils sachent? Parce que parfois parfois c'est des groupes qui sont pas forcément complètement au courant de comment ça se passe.
Oui, j'aimerais leur dire aussi que je les comprends dans un sens, que l'inconnu et les dérives leur fassent peur, mais que aussi malheureusement, il faut savoir que ça éviterait à certains couples d'avoir des échecs en FIV. Ce qu'il faut savoir, que quand on implante des embryons, on ne sait pas comment ils sont génétiquement, ça c'est sûr. Et malheureusement, ça peut créer des fausses couches ou des non-accrochants. Mais il faut savoir que chez les femmes qui font des essais bébés naturels, c'est exactement la même chose. Le problème, c'est qu'en FIV, souvent, le temps est compté, et que les essais, ça fatigue aussi, ça épuise autant moralement que physiquement. Et que si on pouvait implanter des embryons, qui sont génétiquement bien, ça pourrait éviter un petit peu toutes ces souffrances.
Capable d'arriver à terme, quoi, en fait.
Voilà. C'est ça, c'est exactement ça, des embryons viables, quoi, entre guillemets, quoi. Et actuellement, il faut savoir que les femmes sont obligées de partir à l'étranger pour avoir droit à cette technique-là, et c'est ce qui est dommage qu'en France ce ne soit pas possible.
Non, c'est vrai que effectivement, c'est des opinions qui sont souvent formulées par des groupes qui finalement, enfin en tout cas des personnes au niveau des groupes, mais qui ne savent pas finalement par quoi on passe. Et le DPI, comme tu le dis, finalement, il y a un droit à la PMA en France, mais la DPI, c'est pas une option, quoi. C'est pour certains couples, pour certaines femmes, c'est le seul moyen d'y arriver. Et c'est pas par gaieté de cœur qu'on passe par là. C'est juste parce que c'est une vraie nécessité, quoi.
C'est ça. C'est des parcours assez lourds. Donc, si on doit passer par là, c'est qu'il y a une raison. Et voilà, il faut juste que eux le comprennent aussi un petit peu plus. Et c'est vrai qu'il faut un peu, comme on disait, un peu de toute opinion et de tout avis pour faire un monde, quoi.
Tout à fait. Écoute, je te dis un grand merci. Au final, est-ce que il y a un petit mot, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise, que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans votre parcours il y a 4 ans?
Moi, j'aurais aimé qu'on me dise de ne pas s'oublier en tant que couple. C'est hyper important. On est deux. Il faut penser à se soutenir, parce que malheureusement, seul, je pense, c'est compliqué d'y arriver. Et voilà, il faut prendre du temps aussi pour soi, pour tous les deux, pour le couple, et pour pouvoir avancer ensemble dans cette démarche-là qui est quand même assez difficile et assez longue.
On est vite embarqué effectivement dans un tourbillon un peu sans fin, comme un essorage de machine à laver.
c'est dur de
toucher terre et de dire stop. Là, on va se recentrer juste sur nous. On va mettre le projet bébé de côté, ne serait-ce que l'espace d'une soirée. C'est un excellent conseil. Je te remercie.
Avec plaisir.
Eugénie, est-ce qu'il y a un petit mot, une petite conclusion que tu voudrais partager avec nos auditeurs?
Oui, c'est surtout de ne jamais lâcher. Ne lâchez jamais, parce que moi, j'étais à deux doigts de lâcher. Je ne croyais plus en rien, j'avais plus envie de rien. Et en fait, le miracle est arrivé. N'abandonnez pas, parce que il faut pas, c'est tellement dommage. Il faut aller au moins jusqu'au bout, il faut se battre. Et il faut se dire que il faut tout donner, et au moins on n'aura aucun regret, quoi.
Mais écoute, c'est une très jolie conclusion, je te remercie. Ouais. Si nos auditeurs et auditrices veulent continuer la conversation avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver?
Alors, ils peuvent me trouver sur mon Instagram, c'est despaillettesinutero. Voilà. Vous pouvez venir me parler de tout, de rien. Je peux parler de PMA, de bébé, d'essai bébé, de, un petit peu de tout. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me parler, je prends le temps. Voilà, il n'y a pas de problème, au contraire, moi je suis contente.
Bon, bah écoute, super, je rajouterai ton compte dans les notes du podcast, comme ça on pourra te retrouver facilement. Écoute, je te dis encore un immense merci d'avoir passé cette petite heure avec
toi.
J'espère que les auditeurs ne le sauront pas, enfin ne s'en rendront pas compte, mais nous avons eu quelques petits soucis techniques.
Oui.
Alors merci beaucoup pour ta patience.
Merci à toi.
Et puis, je te souhaite vraiment tout le meilleur, une magnifique rencontre pour Noël. Et puis, je te dis à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Je vous remercie infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand, grand merci à Eugénie d'avoir passé ce moment avec moi, d'avoir partagé ses ressentis, ses émotions et d'avoir pris le temps de revenir sur les leçons qu'elle a apprises de ce parcours long qui finalement se termine très, très bien. Si vous souhaitez continuer la conversation autour de cet épisode, je vous donne rendez-vous sur Instagram. Retrouvez la vignette de l'épisode et puis venez en discuter avec nous en commentaire. On est aussi sur Facebook et LinkedIn, donc n'hésitez pas à nous retrouver là également. Si vous souhaitez gâter le podcast en cette période de fin d'année et récompenser finalement l'équipe pour le boulot accompli et abattu pour vous offrir toutes ces belles histoires chaque semaine, rendez-vous sur l'application que vous utilisez pour écouter les podcasts. Abonnez-vous, laissez 5 étoiles et le must, un petit commentaire, ça aide vraiment. Parlez-en autour de vous, partagez le podcast sur les réseaux sociaux, c'est vraiment une des plus belles récompenses que vous puissiez nous offrir. Sur ce, si vous fêtez Noël, je vous souhaite un excellent réveillon, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Je vous retrouve l'année prochaine et je vous embrasse. Prenez soin de vous.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.